Daniel, chapitre 12, versets 1 à 3. Daniel, chapitre 12, versets 1 à 3. Au nom de Jésus. En ce temps-là se dressera Michel, le grand prince, lui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse, tel qu'il n'en est pas advenu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple en réchappera, quiconque se trouvera inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle, ceux-là pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Et les gens réfléchis resplendiront comme la splendeur du firmament, eux qui ont rendu la multitude juste comme les étoiles à tout jamais. Amen. Nous sommes ici devant un texte très mystique, car tout d'abord, il parle d'un ange avec un grand A, l'ange de Dieu. Michel, celui qui est appelé le prince, le grand prince, ou bien l'ange du protecteur du peuple de Dieu. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous pourrez voir à chaque fois dans les livres des prophètes l'ange qui mène le combat avec une épée à la main pour le peuple de Dieu, l'Israël. Ensuite, le texte parle de toute une multitude de personnes qui dorment au pays de la poussière, c'est-à-dire ceux qui sont dans le Shéol, dans le séjour des morts. Il parle des défunts. Et enfin, il fait une représentation, je dirais presque astrologique, de ceux qui ont pour tâche de ramener les survivants, cette multitude, à la justice qui est Dieu, et ceux qui font cette tâche seront comparés comme des étoiles. L'ange Michel, le mot ange, il faut savoir d'abord, n'est pas un terme spécifiquement attribué à la Bible, l'ange. Oui, ce n'est pas un terme biblique, mais c'est la Bible qui a emprunté ce terme plus tard. On a déjà trouvé ce mot ange dans le Proche-Orient ancien, au milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Et d'ailleurs, le mot ange vient de l'hébreu malach, malak, qui signifie un envoyé ou un ambassadeur. Et ce qui est intéressant dans la racine de ce mot malak, il y a le mot malek qui signifie le roi. En même temps, il parle d'ambassadeur, mais en même temps, il parle du roi. Et donc, l'ambassadeur doit être le reflet parfait du roi. Et l'image la plus parfaite du roi, c'est l'ambassadeur. Et cet ambassadeur parle dans la Bible à la première personne, au nom du roi. Normalement, il devrait parler aux troisième personne. Mais il parle à la première personne au nom du roi. Et là, cette idée-là, nous la retrouvons aussi dans la Bible, car à un certain moment, les anges que l'Éternel envoyait parlent comme s'il était Dieu lui-même, si vous lisez l'Ancien Testament. Je vais vous donner un exemple. Rappelons-nous du récit où Moïse avait supplié Yahvé quand il était en colère contre ce peuple, il a dit, je ne viendrai plus avec vous, sinon vous allez être exterminés. Je vais envoyer mon ange. Et là, Moïse a dû plaidoyer devant l'Éternel. Il a supplié Yahvé en personne de marcher avec son peuple. Et non seulement l'ange du Seigneur. Et voici ce que Yahvé lui a répondu dans Exode, chapitre 33, le verset 14. J'irai moi-même avec toi et j'accorderai le repos. Or, si vous lisez l'histoire, c'était l'ange du Seigneur qui était devant. Dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, l'Éternel qui guide son peuple et qui vit avec son peuple se présente aussi comme étant l'Éternel des armées, en archange, en chef de guerre. Et une fois aussi, avec Abraham, il y avait les trois anges qui venaient visiter Abraham. Et dans les textes bibliques, on avait dit que le troisième était l'Éternel. Pourtant, c'était bien écrit, c'était des trois anges. Donc, tantôt le texte décrit le troisième personnage comme étant l'Éternel, tantôt il dit c'était l'ange de Dieu. Donc, vous voyez, c'est vraiment le reflet du roi. Ce qu'on peut dire dans tout cela, c'est que l'envoyé de Dieu et Dieu lui-même ne font qu'un. Il n'est pas juste le porte-parole qui n'est pas concerné du message qu'il annonce ou qu'il apporte. Et je trouve aujourd'hui, c'est là le problème de nos jours dans le monde protestant. Est-ce que nous prêchons juste quelque chose que nous avions appris à la faculté de théologie ou que nous avions lu dans des livres? Il suffit juste de redire ce qu'on a appris aux gens, ce qui n'est pas mauvais en soi, c'est un outil. Mais normalement, nous devons être des envoyés, des ambassadeurs, pour prêcher quelque chose dont nous avions la ferme conviction sur ce que moi je prêche. L'apôtre Jean le dit clairement aussi, il dit « ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, après ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, le Verbe de vie, 1 Jean chapitre 1 verset 1, que nous avons partagé, ce que nous avons entendu, vu, contemplé, toucher le Verbe de vie. » De ce fait, la question qu'on pourrait se poser alors, est-ce que Dieu a-t-il encore besoin de nous s'il s'unit à son envoyé ou à son messager? Est-ce qu'il ne pourrait pas se passer de nous pour son œuvre ici-bas? La réponse est claire. Oui, Dieu n'a pas besoin de l'homme pour que son règne vienne sur la terre. Mais pourquoi nous envoie-t-il alors? Pourquoi il t'appelle pour devenir son ambassadeur? Si nous nous replongeons dans le texte de cette méditation, il est dit au verset 3, « Ceux qui auront amené la multitude à la justice comme des étoiles pour toujours à jamais. » C'est-à-dire qu'il veut te couronner. Il couronne son envoyé, il lui donne une partie de sa gloire. Voilà notre Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas égoïste. C'est un Dieu qui veut partager sa gloire, même avec sa créature. Il partage sa gloire avec nous, contrairement à l'homme qui veut tout garder pour lui, ce qu'il a. Et ce partage est vraiment immense, car si nous nous tenons compte de ce que Jésus avait dit, dans Luc chapitre 10, verset 16, « Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous repousse, me repousse. Mais qui me repousse, repousse celui qui m'a envoyé. » Vous voyez à quel point Dieu accepte que nous lui représentons devant les gens. Et ce qui est interpellant dans tout cela, c'est cette union parfaite que nous avons avec le Seigneur, un peu à l'image du café et du lait qui se mélange, que nous mélangeons, et nous ne savons plus faire la différence par la suite, ou séparer entre le café et le lait, ça devient ensemble. Nous savons tous la célèbre phrase de Paul dans Galates chapitre 2, verset 20. « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi, car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. » Il s'est livré pour moi. Oui, cette union avec le Christ n'est pas juste une union mystique. Quand nous venons à la table du Seigneur, on n'est pas juste là pour penser. Nous sommes en union avec toi, Seigneur, en pensée. C'est une union parfaite que nous avons avec le Seigneur. Un peu à l'image de ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est vraiment une union totale. Il y a une histoire dans l'Acte des Apôtres que peut-être quelques-uns parmi vous ne l'ont pas encore lu ou entendu dans le livre des Actes, Actes chapitre 5, verset 15. Il est dit, on en venait à sortir les malades dans les rues, on les plaçait sur les lits, des lits et des civières, afin que Pierre, l'apôtre de Jésus, au passage, à son passage, il ne dit rien, touche au moins l'un ou l'autre de son ombre. Intéressant comme histoire. Juste l'ombre de Pierre guérissait les malades. Comment ça se fait? Portant des malades et des gens qui tourmentaient des esprits impurs et tous étaient guéris. Ce phénomène étrange, extraordinaire, peut-être peut nous rendre perplexes. Est-ce possible? Ah, il ne faut pas voir une lecture littérale. Mais non. Ou est-ce que le texte biblique n'exagère pas trop pour épater son lecteur? Non. C'est vrai que la question, elle est légitime, voire même naturelle. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas un cas isolé dans la Bible, cette histoire de Pierre. Dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse descendit du mont Sinaï, après avoir reçu les deux tablettes de la loi, il est dit que les fils d'Israël voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Cela signifie quoi? Cela nous montre déjà que la théophanie de Dieu, la révélation de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu sur nous fait des effets sur l'homme. Une union parfaite entre le Christ et son disciple. Et c'est aussi le message de l'Avent. Le divin peut s'unir à l'humain. Dieu qui est immense accepte d'avoir une union avec toi qui est limitée. C'est ça le message d'aujourd'hui. Le message de l'incarnation que nous allons célébrer d'ici quelques semaines, la fête de Noël. C'est cela le miracle de Noël, chers frères et sœurs en Christ. Comment se fait-il qu'un petit corps d'un bébé, d'un enfant, un tout petit bébé de 40 cm, peut contenir toute la gloire céleste? L'union du divin et de l'humain. Ce message de l'incarnation a une conséquence directe sur nous, et c'est ça la bonne nouvelle. Le corps humain, qui est de nature faible, fragile, limité, ce corps que tu as là aujourd'hui peut devenir un réceptacle de la force de Dieu. Comme cette table, comme cette bougie qui montre la lumière de Dieu. Et ce qui est encore plus magnifique dans l'histoire, non seulement le divin peut s'unir à notre humanité, mais grâce au divin, notre humanité sera même préservée et conservée. Regardez dans notre texte, il parle de résurrection. Grâce à ce divin, ce corps périssable peut revenir à la vie. Ceux qui étaient devenus poussière dans le séjour des morts pourront espérer non seulement revivre, mais briller comme l'étoile à jamais. Ça veut dire quoi? Accéder à l'endroit du divin, monter dans le cercle restreint des dieux, comme disaient les gens à l'époque du Proche-Orient ancien. Accéder à l'endroit du divin dans le ciel et briller parmi les anges, parmi les enfants de Dieu. Amen.